Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 9, esclavage sans soumission, émancipation sans liberté. Deuxième partie. Eugène Genovese, dans sa magistrale étude de l'esclavage intitulée Roll Jordan Roll, fait état des comportements simultanés de résistance et de compromis vis-à-vis de l'esclavage. La résistance s'exprimait par des vols, des sabotages et des ralentissements de l'activité, des assassinats de surveillants ou de maîtres, des incendies de bâtiments sur les plantations et, bien sûr, par des évasions. Même le compromis n'était pas exempt d'esprit critique et couvrait des agissements subversifs. Le plus souvent, affirme Genovese, l'esprit de résistance ne débouchait pas sur une insurrection organisée, mais sa signification pour les maîtres et pour les esclaves avait une grande importance. L'évasion était une attitude beaucoup plus réaliste que l'insurrection armée. Dans les années 1850, quelques 1000 esclaves prenaient chaque année la fuite en direction du Nord, du Canada ou du Mexique. Des milliers d'esclaves ne s'échappaient que pour une courte période, malgré les risques terribles qu'ils encouraient. Les chiens utilisés pour les pourchasser mordaient, déchiraient, mutilaient. Et s'ils n'étaient pas rappelés à l'ordre, tuaient leur proie, explique encore Genovese. Harriet Tubman, née esclave et blessée à la tête par un surveillant à l'âge de 15 ans, s'ouvrit elle-même plus tard le chemin de la liberté et devint la plus célèbre passeuse du fameux « chemin de fer souterrain » qui aidait à l'évasion des esclaves. Toujours armée et le plus souvent déguisée, elle fit 19 allers-retours excessivement risqués pour guider plus de 300 esclaves vers la liberté. Elle déclarait aux fugitifs « Vous serez libre ou mort ?»« Je n'avais le choix qu'entre deux choses », raconta-t-elle plus tard, « la liberté ou la mort. Si je n'avais pas pu obtenir l'une, j'aurais eu l'autre. Personne ne m'aurait reprise vivante. » Travailler le moins assidûment possible était une des formes que prenait la résistance des esclaves. W.E.B. Du Bois écrit dans The Gift of Black Folk que l'esclave, ce fils des tropiques doté d'une réceptivité sensuelle à la splendeur du monde, n'était pas aussi aisément transformable en bête de somme mécanique que le travailleur européen du Nord. Il avait tendance à ne travailler qu'en fonction du plaisir qu'il pouvait en retirer et refusait, ou tentait de refuser, de le faire quand il jugeait que les bénéfices spirituels du travail étaient insuffisants. Ainsi, l'accusait-on bien souvent de paresse et le traitait-on en esclave alors qu'en réalité il faisait du travail manuel moderne une nouvelle valeur de vie. Ulrich Phillips évoque encore l'absentéisme, l'évasion spirituelle, la passivité et la ferme résolution d'échapper à tout type de chaîne. Il évoque également les actions collectives. De temps à autre, cependant, une équipe décidait unanimement de cesser le travail pour protester contre les mauvais traitements. Les rares occasions au cours desquelles des blancs pauvres avaient aidé des esclaves avaient suffi à imposer la nécessité de les dresser les uns contre les autres. Genovese nous apprend que les propriétaires d'esclaves suspectaient ceux qui n'en avaient pas d'encourager des esclaves à la désobéissance et parfois même à la révolte. Non pas tant par sympathie pour les noirs que par haine des riches planteurs et par ressentiment de leur propre misère. Certains blancs étaient parfois impliqués dans les projets de soulèvement des esclaves et les craintes n'en étaient que plus vives. Comprend mieux alors la sévérité de la répression s'abattant sur les blancs qui fraternisaient avec les noirs. Il arrivait également que les noirs aident les blancs. Un fugitif noir évoquait le cas d'une esclave qui avait reçu 50 coups de fouet pour avoir nourri un blanc pauvre et malade. Lors de la construction du canal de Brunswick en Géorgie, les esclaves noirs et les ouvriers irlandais travaillaient séparément sous prétexte d'empêcher qu'ils se battent. C'est bien possible. Mais Fanny Kemble, actrice célèbre et femme de planteur, écrit dans son journal que les Irlandais ne sont pas seulement querelleurs, indisciplinés, cogneurs, soifards et grands détestateurs de nègres devant l'éternel, ils sont aussi passionnés, impulsifs, avec un cœur grand comme ça, généreux et capables d'un sentiment de révolte indigné qui explose brutalement lorsqu'il ne peut rester contenu plus longtemps. En outre, ils sont fort compatissants et l'air américain qui emplit leurs poumons, mêlé à une exacte proportion d'esprit enflammé, nous interdit d'affirmer qu'ils sont incapables de prendre les esclaves en sympathie. Je vous laisse juger les conséquences d'une telle possibilité. Vous vous rendez compte, j'en suis certaine, qu'il ne peut être question de les laisser travailler ensemble sur le canal de Brunswick. Cette nécessité de contrôler les esclaves est à l'origine de l'invention d'un ingénieux système. Payer les blancs pauvres, eux-mêmes à l'origine de bien des troubles dans le sud depuis 2 siècles, pour surveiller le travail des noirs et en faire l'objet premier de la haine des esclaves. La religion servit également au contrôle des noirs. Le Cotton Plantation Record and Account Book, un manuel que consultaient nombre de planteurs, donnait ces quelques conseils aux surveillants des plantations. Vous constaterez qu'une heure consacrée chaque dimanche matin à l'instruction morale et religieuse vous sera d'une grande aide en créant un meilleur état d'esprit parmi les nègres. Quant aux prêcheurs noirs, selon Genovese, on attend d'eux qu'ils s'expriment en un langage suffisamment passionné pour maintenir une certaine vivacité d'esprit dans leur troupeau, mais jamais si provoquant cependant qu'ils le poussent à se lancer dans des luttes vaines, ni si sinistre qu'ils provoquent la colère des autorités. On a pu penser, autrefois, que l'esclavage avait détruit la famille noire. D'ailleurs, la condition des noirs fut plus souvent condamnée pour ses effets destructeurs sur la famille que pour l'état de misère et d'infériorité dans lequel elle maintenait les individus. Les esclaves noirs, sans famille, sans ressources, sans relations et sans identité, n'auraient pas eu la force de résister. Pourtant, dans les années 1930, certains entretiens menés avec d'anciens esclaves dans le cadre du Federal Writers Project, lancé lors du New Deal pour le compte de la Bibliothèque du Congrès, révèlent une réalité bien différente, que George Rawick résume ainsi dans From Sundown to Sunup. La communauté des esclaves fonctionnait comme un système généralisé de parenté étendue dans lequel tous les adultes prenaient soin de tous les enfants. On ne distinguait pas « mes enfants dont je suis responsable » de « tes enfants dont tu es responsable ». Un type de relation familiale dans laquelle les enfants les plus âgés se voient confier la responsabilité de leurs frères et sœurs plus jeunes est, à l'évidence, plus fonctionnellement unificateur et plus utile pour les esclaves que le modèle fondé sur la rivalité et, bien souvent, le ressentiment fraternel que produisent fréquemment les familles nucléaires des classes moyennes contemporaines composées de personnalités très individualisé. D'ailleurs, le développement par les esclaves de ce modèle de vie familiale fonctionnellement unificateur n'a pas seulement prévenu la destruction de la personnalité, c'est également un élément indissociable du processus social dont sont issues la fierté noire, l'identité noire, la culture noire, la communauté noire et la révolte noire en Amérique. En se penchant sur les registres, Gutmann a pu réaliser à quel point le taux de mariage était élevé chez les esclaves, hommes ou femmes, et combien ces mariages étaient stables. Dans les archives remarquablement conservées d'une plantation de Caroline du Sud, il a découvert le registre des naissances de 200 esclaves couvrant une période allant du XVIIIe siècle aux années qui précèdent la guerre de sécession. Ce document révèle des liens familiaux très solides, des mariages inébranlables, une fidélité peu commune, et une résistance avérée au mariage forcé. Les esclaves se raccrochaient avec détermination à leur être, à leur amour de la famille, à leur intégrité. En 1843, après avoir assisté au battage du grain en Caroline du Sud, le poète William Cullen Bryan se souvient d'une danse d'esclaves qui était une sorte de parodie de nos entraînements militaires. Les chants religieux étaient fréquemment à double sens. La chanson « Oh Canaan, sweet Canaan, I am bound for the land of Canaan » signifiait bien souvent que les esclaves voulaient partir vers le nord, leur Canaan à eux. Pendant la guerre de sécession, les esclaves commencèrent à inventer de nouveaux chants religieux au contenu plus audacieux. Avant qu'on fasse de moi une esclave, je serai dans la tombe et j'aurai rejoint notre Dieu pour être sauvé. Ou encore, pour moi, fini le piquage du maïs. Fini, fini. Pour moi, fini les coups de fouet. Fini, fini. Levin parle de résistance pré-politique, s'exprimant par tous les canaux possibles de la vie quotidienne et de la culture. La musique, la magie, l'art, la religion étaient pour les esclaves autant de vecteurs au travers desquels affirmer leur humanité. Tandis que les esclaves du Sud tenaient bon, les affranchis du Nord, ils étaient à peu près 130 000 en 1830 et quelques 200 000 en 1850, se battaient pour l'abolition pure et simple de l'esclavage. En 1829, David Walker, fils d'esclave, mais lui-même né libre en Caroline du Nord, partit pour Boston, où il vendait de vieux vêtements. Le pamphlet qu'il écrivit et publia sous le titre de « The Walker's Appeal » connut un énorme succès. Cela fit enrager les esclavagistes du Sud. La Géorgie alla jusqu'à offrir une récompense de $1000 à quiconque lui livrerait Walker vivant et de $1000 à quiconque le tuerait. Une telle réaction s'explique facilement à la lecture du Walker's Appeal. Jamais, dans l'histoire, il n'y avait eu d'esclavage pire que celui des Noirs en Amérique, même pour les Juifs en Égypte, prétendait Walker. Montrez-moi une seule page d'un livre d'histoire sacré ou profane où l'on puisse trouver une phrase qui affirmerait que les Égyptiens proférer l'insulte suprême en prétendant que les fils d'Israël n'appartenaient pas à la grande famille humaine. Il se moquait des tentatives d'assimilation de certains de ses compagnons noirs. Je souhaiterais naïvement que l'on comprît bien que pour rien au monde je ne voudrais être marié à aucune des blanches qu'il m'a été donné de rencontrer dans toute ma vie. Les noirs doivent se battre pour leur liberté, déclarait-il encore. Laissez nos ennemis poursuivre leur tuerie et boire la coupe jusqu'à la lie. Il ne faut jamais tenter d'arracher notre liberté ou nos droits naturels à nos oppresseurs et assassins avant d'être sûr de la manière de procéder. Quand notre heure arrivera et que vous vous lancerez, n'ayez pas peur et n'hésitez pas. Dieu a bien voulu nous donner deux yeux, deux mains, deux pieds et un peu de jugeote aussi bien qu'à eux. Ils n'ont pas plus le droit de nous maintenir en esclavage que nous n'en aurions de le faire. Nos souffrances vont cesser, malgré tous les Américains qui vivent de ce côté-ci de l'éternité. Alors, nous aurons besoin de tous les talents et de toute l'instruction que nous possédons, et peut-être même plus, pour nous gouverner nous-mêmes. Chacun son heure de gloire, et celle des Américains tire à sa fin. Un jour de l'été 1830, le corps de Walker fut retrouvé près de sa boutique de Boston. Comment peut-on parler de l'esclavage ? Peut-être est-ce impossible quand on ne l'a pas vécu. Les économistes et les historiens statisticiens ont tenté de rendre compte de l'esclavage par l'analyse des budgets consacrés à la nourriture et aux soins d'un esclave. Mais cela peut-il témoigner de la réalité de l'esclavage telle que le vivait l'être humain qui le subissait ? Enfin, les conditions de l'esclavage ont-elles la même importance que l'existence de l'esclavage ? John Little, un ancien esclave, écrivait. Ils disent que les esclaves sont heureux parce qu'ils rient et qu'ils sont joyeux. J'ai moi-même reçu, avec trois autres de mes camarades, 200 coups de fouet en un seul jour. Et l'on m'a mis les fers aux pieds. Pourtant, le soir, nous pouvions danser, chanter et faire rire les autres avec le bruit de nos chaînes. Comme nous devions être heureux, n'est-ce pas ? En fait, nous ne le faisions que pour nous défouler et pour que nos cœurs ne soient pas brisés tout à fait. C'est aussi vrai que la parole de l'Évangile. Alors, n'étions-nous pas parfaitement heureux ? C'est pourtant vrai. Je l'ai fait. Oui, j'ai fait toutes sortes de cabrioles, malgré mes chaînes. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.